série des médias francophones publics, présentée par Anne Dorval et signée Francis Legault.
De tous les moyens de communication, la voix chantée est sans doute le plus universel. Souvent mieux que la voix parlée, elle s'adresse directement au cœur. Pour certains, la voix chantée est un don de Dieu. Pour d'autres, un vilain châtiment. Au berceau, elle console l'enfant apeuré, comme elle sait aussi trouver son chemin dans la mémoire fragile du vieillard. Elle peut être une arme de séduction ou faire fondre en larmes les impitoyables guerriers. Les grandes voix sont magiques. Leurs prénoms seuls donnent des frissons. Edith, Céline, Maria, Dalida, Césaria, Nana, Nina, Lara. Les grandes voix peuvent se briser ou s'éteindre, mais rien ne les empêche de traverser le temps. On ne peut, et surtout, on ne veut pas imaginer un monde sans elles.
Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. 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 À l'instant du réveil, pour des joies futiles, pour des joies futiles. Pour la pluie, le soleil, et pour l'impossible, et pour l'impossible. Il y a des matins plus mélancoliques, plus mélancoliques. T'en fais pas trop pour la République, il faut laisser passer la musique. Quand tu chantes,
rencontrée chez elle par un après-midi de printemps, l'irrésistible Catherine Ringer.
Je pense que c'est une des activités humaines, et pas seulement humaines, puisque les oiseaux chantent, pas seulement les oiseaux, mais c'est vrai, d'abord on respire, dans les priorités, il faut respirer. Ensuite, il faut boire. Ensuite, il faut manger, dormir, habiter quelque part, se reproduire. Et après, il y a les activités variées. Donc, on se raconte des histoires, on fait de la musique. Et je sais que tous les enfants adorent chanter. Je pense que de chanter, c'est quelque chose de fondamental et de très utile. Après, on peut perdre, quand on devient plus grand, c'est comme de dessiner. Les enfants aiment dessiner, aiment chanter, aiment bouger, aiment sauter, etc. Puis après, avec le temps, on se spécialise des choses qu'on aime plus faire ou qui sont moins intéressantes pour nous.
Vous chantiez quoi quand vous étiez jeune ?
Tout près du pont, au bord de la rivière. Tout près du pont, au bord de la rivière. Au bord de la rivière, l'herbe poussait. Au bord de la rivière, l'herbe poussait. Mais dans le pré, la faux a coupé l'herbe. Ça, c'est des chansons d'école. Il y avait ma grand-mère aussi qui chantait. Elle chantait avec une voix comme chantaient les femmes à l'époque. C'est-à-dire avec des voix de tête, et elle chantait « Exquise qui nous grise lentement ». Comme ça, avec cette voix un peu... c'est pas de l'opéra, mais c'est la voix un peu la voix lyrique. Mon père aussi chantait, lui, qui venait d'Europe centrale. Il chantait Kaline, 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 Kamaya, Kaline, Kaline. Donc, moi, j'aimais bien chanter ce qu'il chantait. Il chantait des berceuses. Noumi, noumi, ya fati. Noumi, noumi, na. J'ai toujours bien aimé chanter des tas de trucs. Et en plus, quand j'étais gamine, j'aimais bien imiter les animaux aussi. Donc c'est pour ça que j'ai toujours eu une espèce de voix souple et qui peut changer de registre. Depuis que je suis petite, c'est comme ça.
C'était un jeu ?
Ouais. Un jeu et un plaisir. Quand vous êtes à la mer, sur la plage, et que vous entendez les mouettes qui font... Et à l'époque, j'étais très aiguë, donc j'étais comme une mouette. Vous faites un chat, vous faites un chien, vous faites, ça c'est un petit chien, Enfin, j'ai toujours bien aimé faire des tas de trucs ou imiter des gens. imiter des voix.
Le jour se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est un confet. Par la fenêtre ouverte triomphe l'été.
La richesse de la voix chantée, pour l'auteur Éric Emmanuel Schmitt.
C'est le cri transformé en art, c'est la douleur transformée en mélodie, c'est l'amour transformé en berceuse. Je crois que les hommes se sont emparés du chant pour sublimer les émotions primaires et pour en faire des émotions secondaires, et peut-être pour supporter la douleur. Moi, je sais que quand j'entends un air triste, je me dis, tiens, il n'y a pas que moi qui peux avoir des moments de tristesse. Puis après, je me dis, c'est beau. Et après, je me dis, je peux aimer la tristesse puisque c'est si beau. Et j'ai pris une leçon de philosophie rien qu'en écoutant quelqu'un chanter un air. Voilà, on transcende, on sublime, on montre qu'on n'est pas, qu'on ne subit pas et qu'on trouve le moyen de passer par-dessus.
Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce.
La chanteuse Isabelle Boulay.
Je pense que c'est un manifeste, une voix. J'ai tout le temps pensé ça. Donc, je me dis que la première fois que quelqu'un a dû se mettre à chanter, ça devait être soit pour sublimer quelque chose, communiquer quelque chose, mais en tout cas, c'est le souffle de vie. C'est je suis là, je suis vivant, je suis avec toi aussi. C'est un élan, c'est quelque chose que j'ai pas été capable de réprimer. Il fallait que ça sorte, il fallait que ça passe par là, en fait. Moi, pour moi, ça a été une formidable sortie de secours. Je pense que si j'avais pas chanté dans ma vie, je sais pas comment j'aurais tourné. J'aurais pas aussi bien tourné.
Le docteur Jean Habitbol, phoniatre et auteur du livre « Le pouvoir de la voix ».
Les humains chantent d'abord, je pense, parce que la nature chante, les oiseaux chantent, les animaux, dans leur façon de faire, chantent. Et cette nature, l'homme a commencé à les imiter. Il a commencé à imiter le singe, il a commencé à être un imitateur des autres. Et le babillage d'un enfant, c'est un chant. Quand vous écoutez un petit bébé, il se met à babiller, c'est un chant. Il n'y a pas de mots. Et s'il n'y a pas de mots, c'est pas une onomatopée. C'est vraiment, en soi, une harmonie de ce qu'il ressent. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il va parler dans un monde de la raison, dans un monde dans lequel il y a une analyse. En revanche, dans le chant, ce n'est pas ça. Il va éprouver, il va donner, il va exprimer une façon de ce qu'il ressent sans avoir besoin de l'expliquer.
L'ex-ministre française et femme de cœur, Christiane Taubira.
Pour moi, le chant, c'est très lié aux oiseaux. C'est très lié aux oiseaux, pas de façon banale, c'est-à-dire que les oiseaux chantent, mais parce que je crois que c'est vraiment, vraiment un langage que personnellement, j'ai expérimenté. Je me souviens notamment d'un concert très, très disharmonieux que m'ont servi des oiseaux que j'aime beaucoup, qui souvent dialoguent entre eux, et qui, une fois, j'avais fait élaguer un malheureux manguier. Le travail était mal foutu. Donc, ça n'était pas harmonieux, c'était pas joli du tout. Et j'étais sortie dans la journée. Et lorsque je suis rentrée, dès que je suis apparue, les oiseaux, les kikivi, sont des kikivi, parce que leur chant ressemble à ça. Kikivi! On a l'impression qu'ils, voilà, qu'ils interrogent. Kikivi! Et donc, ils ont fait une espèce de disharmonie. De kikivi absolument atroce, ça a duré quelques minutes à peine, à peut-être 2-3 minutes, mais ils m'ont vraiment accueilli avec un concert de protestation. Donc j'ai vraiment expérimenté le fait que chanter pour les oiseaux, c'est vraiment un langage, c'est une façon de dire qu'on est heureux, de dire qu'on partage du bonheur, de dire aussi qu'on est mécontent.
Le biologiste et auteur Boukhar Diouf.
C'est la première chose qu'on entend. C'est, je veux dire, dans tous les peuples, il y a des chansons pour bercer les enfants. Quand tu viens au monde, tu lances ton premier cri, ta première chanson, en fait, pour dire « je suis là, je suis venu, je suis arrivé ». Et quand les mamans t'allaitent, souvent, elles vont chanter, tu l'entends. Chez nous, les Africains, la maman te porte sur le dos, elle danse, elle chante. Elle va dans les rizières, t'es sur son dos, tu l'entends chanter. Quand il veut dormir, on te chante une berceuse. Donc, c'est une communication parallèle à notre communication normale. Parallèlement, on a développé une communication chantée. Et cette communication-là nous touche parce qu'elle dit beaucoup plus que la parole. C'est un mode de communication que la nature nous a laissé et qui est fantastique parce qu'elle communique directement avec nos émotions. C'est directement. Tu puises dans ce qui te fait mal ou ce qui te fait du bien. Tu le sors par la bouche et les gens l'attrapent et le décodent. Ils le décodent tout de suite. Ils le décodent tout de suite, exactement comme quand quelqu'un qui pleure, les gens viennent tout de suite te prendre dans leurs bras parce qu'ils disent, hey, il y a besoin d'aide. Les larmes d'émotion, je veux dire. Mais la chanson fait la même chose.
Une voix peut toucher le cœur de mille façons, mais toujours avec la seule et même explication scientifique. Lara Fabian.
C'est une onde, parce que c'est prouvé, c'est démontré. Hein. Le son peut modifier le visage de l'eau, le son peut modifier le visage du sable, le son peut briser un verre. Donc c'est vraiment dans la décharge vibratoire que l'on reçoit et qui nous traverse. Que quelque chose de biochimique, de physiologique se passe et on peut être séduit comme on peut ne pas l'être. Hein, parce que ça fait les deux choses, la voix. Donc je crois que c'est totalement vibratoire. C'est ce qui nous traverse en temps réel lorsqu'une voix nous touche.
Qu'est-ce que la voix chantée te permet que la voix parlée ne te permet pas?
Oh, ben c'est très simple, en fait. La voix chantée est un costume extraordinaire. Même si elle est aussi habillée de grandes vérités. Mais on n'est pas toujours obligé de le dire que ce que l'on chante est une vérité. Donc on peut se servir de la voix comme d'un metteur en scène, comme d'un décor, comme d'un habit qu'on n'aurait pas porté en d'autres temps. Donc ça crée cette espèce de sas entre la vérité qu'on exprime en fait et ce qu'on n'aurait pas eu le courage de dire si on l'avait parlé.
Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime comme un loup, comme un bois, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça.
Le contre-ténor, Philippe Jaroussky.
J'ai l'habitude de dire qu'on parle de la voix chantée, mais que la voix parlée est déjà miraculeuse. D'avoir la capacité déjà d'exprimer une idée, une pensée, quasi immédiatement après l'avoir eue par la voix, c'est déjà extraordinaire. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à chanter, j'aimais beaucoup le côté jubilatoire et l'énergie que ça me procurait. Mais en même temps, je trouvais ça un petit peu presque... je me sentais nu, je dirais. Je trouvais ça un peu impudique, presque, de chanter en public. C'est vrai que chanter, et on le voit bien, hein, c'est c'est le cas, pas forcément pour les chanteurs professionnels, mais pour tout le monde, c'est vaincre une forme de pudeur, une forme de timidité.
Catherine Ringer.
Physiquement, de toute manière, c'est physique. C'est physique de chanter. C'est à la fois spirituel, physique. Et ça fait de la joie, ça fait une joie profonde. Et même si on n'est pas joyeux dans le sens « ha 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 hi 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 », mais ça vous met dans un état de... Mais je crois que c'est un peu comme les gens qui font du sport aussi. Hein. Ça fait bouger les choses intérieurement et on se sent bien quand on chante. Mais vous, vous devriez continuer à chanter, même si vous ne chantez pas très bien, parce que c'est quelque chose de naturel, je veux dire par là. Après, de chanter professionnellement ou de chanter dans un chœur, c'est sûr que si vous chantez faux et que vous chantez dans un chœur, ce n'est pas possible. Mais de chanter pour le plaisir, sur un disque, enfin sur une musique, ou tout seul, par exemple, est-ce que vous, vous chantez quand vous prenez une douche ?
Oui.
Voilà, donc vous chantez. Ouf !
Le docteur Jean Habitbol.
Un très grand chanteur, il fait danser la voix. C'est-à-dire que quand vous l'écoutez, votre esprit part avec. Il vous emporte. Il vous amène dans un monde où, certes, vous vous y attendez, puisque vous allez l'écouter, c'est une volonté de votre part. Vous pouvez ne pas l'écouter, mais vous êtes déjà dans l'empathie de l'autre que vous écoutez. Et là, vous partez danser avec lui dans son univers. Il vous amène. C'est ça, une très belle voix. C'est qu'elle vous a transporté, même 3 minutes. Vous écoutez Bublé, 3 minutes de charme. Frank Sinatra, vous êtes là. Alors, on aime ou on n'aime pas. Mais si on l'écoute, c'est qu'on aime. Et on part avec lui. C'est ça, il doit chanter.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
La distinction entre une belle et une grande voix pour l'actrice Fanny Ardant.
Ah. Bon, finalement, j'ai l'impression que c'est la même chose. Ce que vous trouvez beau est forcément grand. En règle générale. Donc, quand vous entendez une voix et qu'elle vous donne une émotion ou qu'elle vous fait comprendre des choses comme tout ce que vous aviez d'obscur en vous et qui s'éclaircit, alors ça agrandit le spectre. Vous voyez plus loin, vous voyez plus large, vous voyez plus profond. Je pense qu'il faut aussi que les voix ne soient pas juste que des voix belles, mais qu'elles représentent aussi la personnalité de quelqu'un. Qu'on puisse tout d'un coup, dès qu'on met un disque ou dès qu'on écoute la radio, on sait que c'est telle personne.
Le réalisateur, Patrice Lecomte.
Pour moi, une grande voix, c'est tout bêtement une voix qui m'émeut. Et je suis plus ému par les voix qui ne sont pas parfaites. Je suis plus ému par une voix, avant même de parler de chant, parlons d'actrice par exemple, ou même d'une personne de la vie courante, une voix un peu cassée, une voix un peu grave, une voix un peu flûtée, bizarre, une voix qui aurait des aspérités. Pas une voix pure et lisse. Et je me rends compte que dans les gens que j'aime, les actrices que j'aime, les acteurs aussi bien sûr, ou les chanteuses ou les chanteurs, c'est toujours ceux qui ont une voix un peu décalée. Un exemple, quand Charles Aznavour a commencé à chanter, on lui a dit « ben vous n'y arriverez jamais avec la voix où vous demandez ». Et résultat, c'est Charles Aznavour. Et donc, il a eu raison de tenir bon. Et moi, j'adore la voix de Charles Aznavour, par exemple, avec tant d'autres, parce que c'est pas une voix convenue. En revanche, je déteste la voix de Tino Rossi parce que c'est trop joli, quoi. On dirait un galet lisse et ennuyeux. Les voix qui ont un grain, comme on dit, sont moins ennuyeuses.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient.
J'étais le plus grand. Patrice Lecomte.
Dans les voix qui me touchent infiniment et qui sont issues d'un corps tout petit, il y avait la voix d'Edith Piaf, par exemple. Ce qu'elle chantait, la manière qu'elle avait de chanter les choses, de chanter l'amour, de chanter la tristesse, le désespoir, la séparation, les retrouvailles. Enfin, tout ce qui faisait son vécu ou un vécu inventé ou pas, peu importe, mais tout ça me touche beaucoup parce que grâce à elle, chaque titre, chaque chanson est comme un petit film. Enfin, ça, parce que ses chansons et sa manière de les interpréter, de les vivre, de les transmettre, ces chansons convoquent des images, des rêveries, donc. On a l'impression que cette petite femme avec sa petite robe noire toute menue, je l'ai jamais vue sur scène, on a l'impression que rien ne pouvait l'arrêter. C'est drôle, avec un physique aussi fluet, d'être un bulldozer.
Certaines grandes voix se faufilent dans le cœur des enfants et les accompagnent pour le reste de leur vie. En 1986, à l'émission Le Bon Plaisir sur France Culture, la réalisatrice Agnès Varda se souvient d'une voix légendaire.
Elle avait une voix extraordinaire qui perçait comme ça. Elle avait une force, un volume, un organe vocal assez extraordinaire. Elle avait une émotion qui passait dans tout ce qu'elle chantait. Et pour des raisons qui m'échappent, maman, qui était fille de pasteur, qui avait été élevée très puritaine, maman était tout à fait impressionnée par Edith Piaf. Elle l'aimait tellement qu'elle voulait que nous l'entendions, même nous tout petits. Je me souviens une fois, on était sur une plage belge, je ne sais pas si c'est Blankenberg ou Mariakerk, une de ces plages de la côte belge, et Edith Piaf chantait au casino. Et maman avait décidé d'emmener ses 5 enfants. Mais il faut croire que les plus petits, ils avaient, je sais pas, 7 ans ou 6 ans. Alors la voilà qui s'amène au casino avec les 5 enfants. Décidée à nous faire rencontrer en vrai la voix d'Edith Piaf. Mais évidemment, au casino, elle ne voulait pas laisser rentrer les enfants, puisque c'était interdit aux mineurs. Alors elle a demandé le directeur du casino et elle a dit, écoutez, Piaf est une grande chanteuse. Je vous donne ma parole d'honneur que sitôt qu'elle aura fini de chanter, nous sortirons. Que jamais mes enfants ni ne n'approcheront ni ne regarderont les tables de jeu. Mais je tiens essentiellement à payer les places et à ce que tous mes enfants écoutent Edith Piaf. Alors, elle a réussi à convaincre le directeur du casino. Et la Smala des petits Varda, nous étions quand même déjà 5 à l'époque. Je pense qu'Edith Piaf, dans un casino, a dû rigoler parce qu'il y avait tous ces petits niards qui l'écoutaient. Et 2 jours après, impressionné, moi, je marchais sur le bord de la plage et je chantais à tue-tête les chansons de Piaf en faisant tous ces gestes. Je me rappelle chanter une chanson, tout le monde me suit mon enterrement, là. Je ne sais plus quelle chanson c'était. Et il y avait là un bistrot et il y avait à la fenêtre du bistrot quelqu'un qui me regardait. Tout d'un coup, je vois une femme qui éclate de rire, qui me fait des gestes, qui me fait signe de venir. Je m'approche de ce bistrot, c'était Edith Piaf elle-même, qui, comprenant ma mimique, voyait très très bien que je chantais, que j'imitais ses gestes, sa chanson. Elle avait un tailleur vert cru, vert pire que pomme, vert gazon, vert pré. Et elle était surmaquillée, elle était extraordinaire. Elle était 11h du matin, et la petite fille que j'étais, elle m'a invitée à prendre un jus de fruits. Et elle m'a fait parler de mes impressions sur son spectacle. Alors ma rencontre avec Piaf était inoubliable.
Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux quand on est ensemble nous deux. Quelle vie on a tous les deux quand on s'aime comme nous deux. On pourrait changer de planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les plans-plans de la fête. Et la terre n'y est pour rien.
Parfois grinçant et parfois même grincheux, le metteur en scène québécois Serge Denoncourt.
La voix chantée a quelque chose de particulier parce que, et là, c'est boiteux comme comparaison, mais c'est comme le cirque. C'est-à-dire que c'est des gens, les grandes voix, qui peuvent faire des choses que nous, on ne sait pas faire. Alors que parler, quand tu vois un acteur parler, on sait tous parler. On ne sait pas nécessairement parler sur une scène, donner l'émotion, mais on sait tous parler. Par contre, quand on arrive dans les sublimes notes de Céline Dion, quand on arrive dans la virtuosité de Hima Sumac, quand on arrive dans la Montserrat Caballé, on n'est pas capable de faire ça. Comme on n'est pas capable de marcher sur un fil de fer, comme on n'est pas capable de se contorsionner en huit. Donc, on est admiratif d'un truc qui nous est absolument pas accessible. Donc, il y a une part, je pense, d'admiration et d'être impressionné, ce qui est un danger. Parce que certains chanteurs, chanteuses, peuvent faire un numéro de cirque avec leur voix et juste vouloir nous impressionner. Et ça m'impressionne pas.
As-tu des noms en tête?
Est-ce que j'ai des noms en tête? Oui, j'ai des noms en tête. Mariah Carey. Elle chante bien, elle chante haut, elle chante fort, elle peut tout faire. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est un numéro de cirque. Alors que Céline Dion peut faire la même chose. Mais moi, j'ai vu Céline chanter des chansons de l'album 2 où vraiment on était dans la nuance, l'intelligence du texte, l'émotion, la vérité. Et c'est la Céline Dion que je préfère parce que sa voix est toujours là de toute façon. C'est la Céline Dion qui peut me faire pleurer. Alors que c'est pas gagné d'avance si je vais avoir un spectacle de Céline. Et quand elle y va, c'est absolument extraordinaire, alors que chez Carey, on voit pas ça. Elle a pas ça.
Vous écoutez Histoire de voix, une production des médias francophones publics. En 1998, lors de son passage à l'émission Chouette Planète, la chanteuse Morane n'a que de bons mots pour Céline Dion. Une archive de la RTBF.
C'est vraiment quelqu'un de fascinant, Céline, parce que elle est, bon, d'abord, elle a le talent qu'elle a. Elle chante incroyablement, merveilleusement bien. C'est quelqu'un d'émouvant. Moi, je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'émouvant. Et en même temps, elle garde une simplicité, elle garde une fraîcheur que je trouve assez belle. Je ne sais pas comment elle fait, parce que vraiment, ça doit pas être facile du tout. Je me mets dans sa peau, j'arrive pas. Elle est entre deux avions et dans une valise 365 jours par an. Elle rêve que d'une chose, c'est de faire un enfant. Il y a toujours un truc qui l'empêche de le faire. Quand c'est pas l'album anglais, c'est l'album français. Après, c'est la tournée aux États-Unis. Elle revient en France. Enfin, c'est la folie. Donc, je me dis, comment on peut garder la tête sur les épaules comme elle fait et être aussi avenant avec les gens? Parce que c'est une sincèrement gentille, Céline Dion. C'est vraiment quelqu'un de bien, moi je crois. Et c'est pas étonnant que ça cartonne autant parce que je crois que elle véhicule quelque chose de très simple et de très positif. Et à la fois de terriblement performant. Parce qu'elle a quand même un côté américaine aussi, Céline. Donc il y a un truc comme ça, il y a le côté impressionnant de son professionnalisme. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de spontanéité, beaucoup d'humour.
Le chanteur Patrick Bruel.
Une des voix qui m'a le plus bouleversé, c'est Morane. Morane, elle est quelque chose de très déchiré, de très puissant, de très... J'étais très sensible à ça, à l'émotion qu'elle dégageait quand elle chantait. Et l'une des plus belles performances que j'ai vues de ma vie restera le duo entre Morane et Céline Dion au Resto du Cœur, quand elles ont chanté « Quand on n'a que l'amour », justement. Je pense qu'on peut difficilement faire une plus belle incarnation.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nul autre richesse, puis d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles, habillés matin, pauvres et malandrins, au manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Offrir à cela dans l'unique combat et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque
Emmanuel Schmitt.
Il y a vraiment des voix dont je suis amoureux depuis presque depuis que je suis né, et ce sont des histoires d'amour continues, il n'y a pas d'interruption. Il n'y a qu'avec Callas que j'ai eu des scènes de ménage. Avec Callas, j'ai eu des moments d'amour et des moments de désamour. Parce que cette voix est tellement singulière. Elle n'est pas forcément belle en elle-même. C'est pas la voix de Montserrat Caballé ou de Kirite Kanawa, mais elle est un instrument dramatique, extraordinaire. Mais il y a quelque chose d'écorché parfois, il y a quelque chose qui brûle, ce qui fait que quand on l'écoute, elle sort des haut-parleurs, elle est là dans la pièce, et vous avez le théâtre, vous avez le drame, vous avez la tragédie, vous avez la comédie quand elle chante le Barbier de Séville. Donc elle est ensorcelante, et je l'aime passionnément. Et puis, il y a des moments où je me dis, non, ce timbre n'est pas suffisamment beau. Je retourne à ce moment-là vers les beaux timbres. Mais je finis toujours par revenir vers Callas, parce que c'est la plus grande musicienne et la plus grande comédienne, chanteuse, que j'ai jamais entendue au disque.
Fanny Ardant.
Je me souviens que pour Noël, on avait reçu un disque, tous les enfants, un seul disque pour tous ses enfants, c'est Crépel Chignon. Et puis, j'ai réussi à la voir et c'était Maria Callas qui chantait Carmen, dirigée par Georges Prêtre. Et donc, j'ai découvert en même temps et le Carmen de Bizet et cette voix. Tout de suite, même petite jeune fille, je pensais que Maria Callas n'avait pas peur d'aller vers des sons qu'on pourrait appeler rauques, des sons presque qu'on pourrait dire cassants, pour dire tout ce qu'elle ressentait de ce personnage de Carmen, avec son insolence, avec son amour fou, en faire sa violence. Donc, pour moi, j'ai été initiée à l'opéra grâce à elle et grâce à ce disque. Mais jamais aucune voix ne m'a fulgurée comme la voix de Maria Callas. Parce que je trouvais qu'il y a, derrière cette voix, on sentait tout ce qu'était, et la fragilité, et le chagrin, ou la passion, ou la folie, ou la moquerie. Donc, entraînée par la musique, elle ne perdait jamais l'idée de la vérité pour sacrifier au beau. Elle préférait être vraie que juste à ma che bella voce. Et que tout d'un coup, dans la voix de Callas, il y avait quelque chose qui était sa propre voix. EVOIE et EVOIX. Donc il y avait quelque chose où on pouvait en effet assumer d'être soi.
Kev Lambert, l'auteur de Que notre joie demeure, la voix de Ginette Renaud brille comme un diamant.
Moi, Ginette Renaud, c'est ma grand-mère du Lac-Saint-Jean, Jacqueline Cossette, qui est morte à 97 ans il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Puis elle, c'était une de ses chanteuses préférées, Ginette Renaud. L'album de Noël, parce qu'elle fait des super chansons de Noël. Puis quand j'étais enfant, c'était assez... On riait beaucoup de Ginette Renaud. C'était comme un personnage. Puis je pense que dans la culture en général québécoise, c'était devenu une sorte de personnage caricatural, tu sais, avec beaucoup de tendresse et d'amour, là, mais quand même, c'était devenu une sorte de mascotte, si on veut, tu sais. Mes cousins riaient de ça, là, mais ma grand-mère avait tout compris. C'est extraordinaire. Puis c'est un personnage qui déborde dans tous les sens, qui est très excessif. Ce qui me bouleverse, c'est justement cette voix-là où on entend quand même une forme de tragique, où on entend une mélancolie, où on entend des regrets, du renoncement, de la haine de soi, même, je dirais. Parce qu'il faut savoir que Ginette Renaud a grandi dans un quartier très pauvre de Montréal. Il y avait de la violence physique et psychologique et verbale dans la maison où elle a grandi. Puis sa vie, ça a été une forme de tentative d'émancipation des traumas, je pense, de l'enfance. Donc, si c'était seulement de l'excès, sans cette petite note-là mélancolique, je pense que ça serait pas aussi bouleversant. Mais ça allait précisément pour ça. Parce qu'il y a un petit diamant au fond du verre d'eau qui déborde.
Ginette Renaud.
Pour moi, la voix, c'était le plus beau cadeau que j'ai reçu. Parce que j'ai toujours dit, ma voix, c'est ma voix. VOIE puis VOIX. Une voix, pour moi, c'est... Pour moi, ça a été mon outil pour démontrer la femme que j'étais ou la femme que je suis. Les auteurs-compositeurs, parfois, m'ont écrit des chansons. Ils étaient clairvoyants. Ils voyaient en dedans de moi et ils m'écrivaient quelque chose pour justement soit m'élever, soit me faire comprendre quelque chose. Et maintenant, c'est bizarre parce que j'ai comme 3-4 chansons que j'affectionne particulièrement, que je me chante à moi ou chante à mon enfant intérieur. Parce que moi, je couche toujours avec mon toutou. Puis je chante des chansons parce que c'est moi, pour me réconforter.
Un petit toutou en plus, là?
Oui, les vrais toutous en plus, oui. Oui, oui. C'est mon toutou, je dors avec, c'est moi. C'est moi quand j'étais enfant.
Ce soir, je ne me suis pas épargnée. Toute ma vie, je l'ai racontée. Comme si ça ne se voyait pas. Que la pudeur en moi n'existe pas. Ce soir, au rythme de mes fantaisies, je vous ai fait partager ma vie. Ça n'en demeure pas moins la vérité. Mais moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure à la moindre émotion. Avec mes larmes ou mon rire dans les yeux, je vous ai fait l'amour.
Dans son premier roman, Ce que je sais de toi, l'auteur Éric Chacour réserve une douce place à la voix de Dalida et sa chanson El Waya Baladi.
Ah ben la voix de Dalida, donc il y a la voix qui est extrêmement profonde, un peu grave, mais il y a aussi l'accent, il y a aussi les intonations, cette espèce d'accent d'italienne qui a grandi en Égypte et qui est matinée tout un tas de choses, qui roule ses airs d'ailleurs assez différemment au début de sa carrière de la fin de sa carrière et qui la rend complètement reconnaissable à la première phrase qu'elle prononce.
Et toi, elle est entrée comment dans ta vie?
Dalida, c'était la cassette qui tournait dans la voiture quand j'étais gamin, mais à l'époque où on a du mal à dissocier sa propre mère de la dame qui chante sur la cassette et on se demande si c'est la même personne ou pas. Et moi, petit, je connaissais de manière complètement phonétique ces chansons en arabe, mais quasiment par cœur. Salma ya Salama, Halwa ya Baladi. Je sais que le président Sadat, par exemple, était fou de Dalida et qu'il écoutait parfois dans l'avion présidentiel qui le ramenait, en tout cas c'est la légende, certaines de ses chansons. Et jusqu'à présent, la chanson Halwa ya Baladi est une chanson qui a marqué totalement le monde arabe. C'est-à-dire que dans les stades de soccer, quand il y a une sorte d'émotion et que l'ensemble du public se met à chanter quelque chose, ils peuvent se mettre à chanter El Waya Baladi, qui veut dire il est beau mon pays. Pendant les révolutions égyptiennes aussi, dans la rue, on voyait spontanément des gens qui se mettaient à chanter cette chanson-là, les soirs de fête, de feux d'artifice, etc. Et ce sont souvent des gens qui ont oublié qui était l'interprète d'origine, mais qui connaît cette chanson par cœur, qui a été reprise depuis par tout un tas de chanteurs et de chanteuses. Et moi, dans mon petit musée musical personnel, y avait cette chanson-là, qui est peut-être une des plus belles du monde.
«
À travers la francophonie, on associe Claude Dubois à son inégalable interprétation du blues du businessman. Au Québec, Dubois demeure la voix qui chante pour tous ceux à qui on ne donne jamais la parole.
Pour moi, il y a tout un paquet de phénomènes qui font qu'une voix devient différente et unique. Il y a la musique, il y a ce qu'on utilise comme accord. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui chante beaucoup dans des notes mineures. Et ça, normalement, à mon avis, ça donne un côté émotif à la musique et à la chanson. La voix cassée aussi donne un côté plus bon. Mais par contre, dans mon cas, je réussis à faire et ténor et voix cassée dans la même chanson. Alors, pour moi, je pense que ce qui fait une belle voix, c'est comment on va utiliser cet organe-là et de quoi on va l'entourer.
La plus grande qualité de votre voix, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'elle vient toucher les gens?
Alors moi, je pense que la plus grande qualité de ma voix, c'est que les gens s'y sont habitués. Et que, quelque part, même si je chante pas, si je me déplace dans un marché d'alimentation et que je dis deux mots, et on se retourne et dit « Ah, c'est vous, je vous avais reconnu! » Puis pourtant, ils regardaient ailleurs. C'est ça. Je crois que c'est ça qui est la magie.
Il est né un jour de printemps, il était le septième enfant d'une famille d'ouvriers, n'ayant pas peur de travailler. Comme un million de gens, ils ont grandi dans un quartier où il fallait pour subsister serrer les dents et les poings fermés. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. En mangeant de pain, il avait vu que le voisin avait quelque chose sur le sien qu'il aurait bien aimé goûter. Comme un million de gens, il a cessé d'étudier, car il fallait pour mieux manger serrer les dents et travailler. Autour de lui, il y avait plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. Puis un jour, il a rencontré sans pour cela se demander si du moins ils pouvaient l'aimer. Comme un million de gens, ils ont vieilli dans leur quartier, et leurs enfants pour subsister serrent les dents les poings fermés. Mais autour d'eux, il y aura plus petit et plus grand, des hommes semblables en dedans. Comme un million de gens qui pourraient se rassembler moins exploités et beaucoup plus communiqués, se distinguer, se raisonner, s'émanciper, se libérer, s'administrer, se décaver, s'équilibrer, s'évaporer, s'évoluer, se posséder.
Les grandes voix qui charment Catherine Ringer.
En fait, il y en a dans plusieurs styles de musique. Dans les voix de soul, par exemple, je sais que James Brown, c'est un chanteur merveilleux, Aretha Franklin. Dans le jazz, il y en a encore d'autres. Ça, c'est dans les voix françaises classiques. Moi, j'aime beaucoup Barbara, Edith Piaf, des voix de plus récentes. Il y en a aussi des très belles. Maintenant, la voix en France, on a un peu le truc de chanter vraiment très doucement. Je pense que ça va avec aussi l'ambiance du pays. On est un peu intimidé, pas sûr de nous. Donc, ça chante tout doucement comme ça. Ça a son charme aussi. Ça exprime le culture du pays. J'ai aimé aussi énormément Oum Kalsoum. Farid El Atrache. J'ai aimé aussi beaucoup de voix africaines, Morikante, qui a une voix extraordinaire. Césaria Evora, qui est par exemple une très grande voix dans le sens où elle fait un effet, même si on comprend rien de ce qu'elle raconte, ce qui est la plupart du temps, pour le monde entier, mais je crois qu'elle touche comme ça, un peu universellement, quand on l'entend, ça, oh, ça vous touche au cœur. Donc il y a pas mal de styles de voix qui m'ont touché, oui.
Les effluves de rhum dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes. Immobile comme à ton habitude, mais es-tu devenue muette? Ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus? Et voilà, et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà, et voilà. Après tant d'années. C'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr.
Pour la sortie de son album Racine Carrée en 2013, Stromae est passage à l'émission Plage Musicale sur France Culture.
Il y a une très belle chanson sur Racine Carrée, c'est un hommage que vous rendez à Césaria Evora qui s'appelle Ave Césaria.
Merci.
J'imaginais pas que vous écoutiez Césaria Evora. C'est quelqu'un qui vous a longtemps passionné, que vous avez découvert comment?
Je l'ai découvert, je pense que ça devait être plus ou moins à l'internat, donc je devais avoir... Mais je sais pas par qui, en fait, c'est une bonne question, parce que c'est par ma maman, mais je sais plus. En tout cas, il y a la belle mélancolie, en fait, dans tout son travail. Et c'est cette mélancolie-là, moi, qui passe au-dessus de la langue, quoi. Et on n'arrête pas tout le temps de nous dire qu'il n'y a que l'anglais qui est international. Et j'ai envie de dire, non, la preuve... Césaria Evora, elle parle une langue qui n'est même pas le portugais, c'est le créole portugais et ça nous empêche pas de pleurer quand on l'écoute, quoi. Et évidemment, pour moi, c'est une grande madame. Humilité, ouais, elle est low profile, elle s'est jamais pris elle a jamais pété plus haut que son derrière, pour être poli. Et puis en même temps, il y a toute son histoire. Elle chante pieds nus, c'est pas juste pour jouer les I Love Africa, c'est simplement pour en hommage à la galère du Cap Vert, quoi. Et juste ça, et tout son vécu, et elle est quand même magnifique, quoi. Elle a beau avoir un œil qui démerde à l'autre, ben elle est quand même super belle, quoi.
Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Que mostrava esse caminho longe, que mostrava esse caminho longe. Esse caminho passando-me, saudade, 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 diz minha terra, Saninclau.
C'était Histoire de voix, une série des médias francophones publics. À la narration, Anne Dorval. À la technique, Patrick Knoop. À la recherche, Marie-Christine Blay et Jean-Philippe Roux. Avec une musique originale de Joseph Marchand. Musicothécaire, Tina Gervais. Adjoint à la réalisation, Pierre-Antoine. Cette émission est signée Francis Legault.